Rádio Jardim, Gordon. L'équipe de Grand Témoin est heureuse de vous retrouver. Elle vous retrouve avec Gilbert Kiakwama Kiakizuki, plusieurs fois ministre, actuellement député national CDC et président du groupe parlementaire des démocrates chrétiens. Monsieur Kiakwama, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup, ma chère Louise.
Avec vous, dans cet entretien, nous parlerons de vous. C'est-à-dire, on va essayer de vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi. C'est vrai que Gilbert Kiakwama, c'est un nom très connu en RDC, mais nous, on va aller dans les plus petits détails de votre vie, de votre personne. Nous parlerons des responsabilités que vous avez occupées dans ce pays. Vous avez été plusieurs fois ministre pendant la Deuxième République. Bien entendu, nous commenterons aussi l'actualité. J'ai choisi trois sujets, la CENI, le rapport des Nations Unies et puis le projet de budget 2011. Nous n'en sommes pas encore là. Commençons par une brève présentation de vous. Vous êtes né un certain 16 novembre 1938 à Kinkuzu, dans le Bakongo. C'est là que vous passez votre enfance?
Oui, très peu, parce que en fait, mes parents s'établissent déjà vers les années 40, ici j'ai un an. Je suis plutôt quinoa qu'autre chose. Nous avons vécu ici à Kinshasa, j'ai fait mon école primaire ici, ensuite une partie de mes études secondaires, une autre partie, après 60, je suis allé aux études jusqu'à 67 où j'ai fini une licence en sciences commerciales et financières.
En Belgique?
En Belgique, oui, à Mons.
Pourquoi vous avez décidé d'aller faire ça à l'étranger que de rester faire ça au pays?
Non, d'abord parce que les études de notre temps, avant l'indépendance, ça n'était pas donné à tout le monde de faire des études. Et ce n'est pas comme aujourd'hui. Hier, les gens faisaient d'abord l'école moyenne, et c'était mon cas, j'avais fait l'école moyenne. Mais au fur et à mesure qu'on allait vers l'indépendance, je me rendais bien compte que la situation du pays allait changer et que j'avais toujours envie de parfaire de ma formation. J'ai donc décidé d'arrêter tout alors que je travaillais, alors que j'avais une maison à l'Elba. J'ai tout arrêté en 60 parce que j'avais l'appréhension que le pays allait changer, qu'il fallait se préparer à ce changement.
Allait changer comment? Dans quel sens? Parce qu'il y avait l'indépendance qui devait arriver?
Non, on allait se rendre compte que les expatriés, les colons allaient partir et qu'ils allaient se créer un vide. Et ce vide avait besoin des gens formés, compétent pour assumer la responsabilité de diriger et de gouverner le pays. Et j'estimais que je n'avais pas une formation suffisante après avoir fait l'école moyenne. On était formé pour être des auxiliaires plutôt qu'autre chose. Il me semblait que c'était suffisant pour prétendre à un certain degré de responsabilité à l'avenir. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais aller partir mes études. Et j'étais donc pendant 7 ans à l'étranger pour terminer ma licence et je suis rentré immédiatement après.
Satisfait de vos études, de votre formation à l'étranger?
Oh oui, je n'avais aucun problème. J'étais parmi les premiers partout, donc il n'y a pas de problème. Je suis le premier Congolais qui est sorti à la faculté de Mons en 67.
Vous avez trouvé des Congolais là-bas ou bien vous êtes le premier à arriver et à sortir avec
J'étais le premier qui a eu son diplôme, mais le premier qui s'est inscrit. Et concrètement, à la Procam, à Mons, c'est le vieux Litonga Kalange. Il s'est inscrit là vers les années 58, et il se fait qu'en 59, il était happé par la politique, donc il a quitté, il est revenu ici.
Monsieur, c'est basté à quoi, madame? Dans quelles conditions avez-vous grandi?
Eh bien, quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe à la fin, nous avons eu une très bonne jeunesse. D'abord, les parents n'étaient pas très riches, mais on ne manquait de rien. On mourait pas de faim, d'une part, et d'autre part, du point de vue de l'encadrement, nous étions encadrés par des prêtres, par des enseignants, les nos moniteurs que nous appelions d'ailleurs pompeusement monsieur. Et ces messieurs avaient au moins deux choses qu'ils nous inculquaient. D'abord, que l'instruction élevait la personne humaine, il fallait donc se former. Et ce que je déplore le plus, je vois que la jeunesse d'aujourd'hui, par moment, elle n'est pas portée vers l'exigence de la formation. Et hier, chacun de nous voulait absolument se former, avoir accès à la modernité, à la culture. J'ai l'impression que ce n'est plus le cas maintenant. Et nous étions très compétitifs. Quand je vois, nous qui avons été élevés, dans mon cas, ma mère ne savait ni lire ni écrire. Mon père était enseignant lettré. bon, mais seulement on allait à l'école. Je me souviens pendant les vacances, on nous habituait à parler français. Eh bien, nous avons le jeton pendant les récréations. Celui qui parlait lingala, on lui collait le jeton. Quand il rentrait, il avait des réprimandes de la part du moniteur. Donc, il y avait des stimulations. Nous jouions au sport ici, dans Kinshasa. On allait au cinéma, on allait au stade. On était occupés. Nous n'étions pas désœuvrés. Il y avait un encadrement tel que celui qui voulait vraiment étudier, il arrivait à se former. Et je me souviens, il est vrai qu'on n'était pas très nombreux, je me souviens que lorsqu'un enfant n'allait pas à l'école, eh bien, le directeur, qui était souvent un prêtre, a envoyé une convocation. On convoquait les parents pour qu'ils viennent justifier pourquoi l'enfant n'a pas été à l'école. Aujourd'hui, certains parents sont devenus même complices des enfants qui ne vont pas à l'école. On fait les bulletins pour excuser, et même mieux, certains, on va jusqu'à corrompre soit le directeur, soit les profs pour avoir des points. Voilà des choses auxquelles, de notre temps, c'était impensable et inimaginable.
Vous avez grandi dans de bonnes conditions. Sûrement que vous gardez des bons souvenirs de votre jeunesse. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, quelques bons souvenirs que vous gardez de votre jeunesse?
Eh bien, par exemple, je vais vous dire, nous, on jouait au football. Eh bien, comme dans la ville, les Bakongo étaient majoritaires. Mais toutes les classes, il n'y avait plus de Bakongo que ceux qui venaient d'autres régions, qu'on appelait à Kinshasa globalement les Bangala. Eh bien, pour jouer au football, nous, on ne se posait pas la question. On sortait, on faisait 11-11, mais comme il avait passé, on disait simplement Bakongo Bangala. Mais ça n'avait rien de rejet de l'autre. Alors, moi, j'ai grandi, je ne me préoccupais pas de savoir d'où est venue telle ou telle personne. Nous vivions en fonction de nos quartiers et moi, ou de nos communes.
Voilà, monsieur Pierre-Forme, j'ai lu dans un document que vous étiez doctorant à l'Ovanium à l'IRES, mais seulement vous n'avez pas défendu votre thèse. Je vais reprendre vos propos. Les conditions d'études s'étaient trop fortement détériorées pour fournir un travail de qualité. Pourquoi?
Parce que c'était simple. J'ai étudié dans des conditions telles que l'université. On nous a mis dans la tête, et j'ai encore cette vision des choses, que le campus universitaire est inviolable. Et que dès lors, j'étais à Louvain, j'étais à Mons, j'étais à Louvain, et quand je viens ici à l'IRES, c'était l'atmosphère qu'il y avait dans ce qu'on appelait l'Ovanium, où il y avait un respect des profs, de la vie académique. Eh bien, en 69, il y a eu les événements des étudiants qui avaient protesté, et puis il y a eu des morts, je crois que c'est le 4 juin 69, j'étais professeur assistant, eh bien, l'armée a occupé le campus. Et j'ai trouvé comme si on avait violé le soir que j'avais fait de devenir professeur. Et je considérais que les conditions n'étaient plus réunies pour travailler dans une université où il y avait des généraux qui se promenaient. Voilà pourquoi je suis parti à la banque.
Radio Cathie, Grand Témoin.
Le grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui Gilbert Kiakwama Kiakizuki, plusieurs points ministres, actuellement député national, CDC et président du groupe parlementaire des démocrates chrétiens. Alors Gilbert Kiakwama, parlons de votre parcours professionnel, par où et en quelle année vous commencez votre carrière professionnelle?
Eh bien, d'abord il faut dire ceci, nous allions en Europe pour faire des études. On n'y allait pas pour devenir autre chose comme aujourd'hui, on va parce qu'on fuit les difficultés ici, ou d'autres sont allés parce que bon, ils sont devenus goulous. Non, nous on allait pour étudier. Donc, lorsqu'on terminait ces études, il n'y avait qu'une seule envie, c'est de rentrer chez soi. J'ai fini en juin 67, en octobre, j'étais nommé professeur assistant au campus. Donc j'étais déjà à Kinshasa. Je vous ai dit qu'en 69, j'ai dû quitter. Je suis rentré à la banque, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Union Zaïroise de Banque, ou qui est devenue la Banque Congolaise. J'étais là, j'étais le premier universitaire qui était engagé là en 67, et donc j'avais une partie de mon temps, j'apprenais à être banquier, et les autres parties, je faisais la recherche à l'IRES comme doctorat sur les liquidités monétaires internationales. Et de là, je suis resté là 3 ans, en 70. Les autorités congolaises, c'est comme ça que d'ailleurs je vais devenir fonctionnaire à moitié, les autorités congolaises avaient créé la banque de développement qui s'appelait la Sofidé. Et j'ai été le premier employé recruté avec un expert de la Banque mondiale pour créer la Sofidé. Alors j'ai été donc le directeur d'exploitation de la Sofidé. J'y suis resté 2 ans et je me souviens parmi les dates qui à la fois m'ont marqué et m'ont libéré, c'était le 12 novembre 72. Ce jour-là, j'étais à mon bureau, grand directeur, pas de problème, et j'ai reçu une visite d'un directeur de cabinet adjoint du bureau du président de la République pour informer mon directeur général, qui était un agent détaché par la Banque mondiale, que je devais quitter la banque.
Quelle raison?
Il n'y avait pas la raison. La formule était « La présidence a décidé que M. Kakwama ne sera pas directeur général de la société. » Alors que j'ai été recruté pour cela. Donc, c'est la première des choses qui m'a marqué dans toute ma carrière, je dirais presque dans toute ma vie.
Vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi cette décision était tombée?
C'est pas difficile à chercher parce que je comprenais tout de suite. La réalité, c'est que bon, je n'étais pas l'homme de l'emploi. Et donc, j'ai dû partir. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, je découvre l'injustice. Puisque mes patrons, qui étaient mon directeur général, en même temps que j'étais en rapport avec la Banque mondiale, tout le monde était satisfait de ce que je faisais. Ils étaient prêts à me proposer comme directeur général. Et voilà que mon pays me recuse pour des raisons politiques. Et j'ai découvert cette fois-là l'injustice. Et j'ai dit, cela m'a marqué beaucoup parce que tout le long de ma carrière, j'ai toujours lié de ne pas être injuste vis-à-vis des autres, ou de privilégier des raisons politiques pour écarter quelqu'un d'une fonction ou de sa voie ou de sa carrière.
Et donc après la société, on vous retrouve à l'office de promotion des plus petites et moyennes entreprises congolaises.
Eh bien, après donc, je suis sorti de là, je suis resté 8 mois à la maison.
Au chômage.
Au chômage, mais le chômage était doré parce que j'ai été défendu par la Banque mondiale qui exige que l'on me paye. Même si je ne venais pas au travail. Alors, vous vous mettez dans la situation de quelqu'un qui reçoit un salaire chaque mois qu'il ne mérite pas. Et on vous dit, surtout ne dites pas que vous ne travaillez pas. Venez toucher votre salaire et bouclez-la. On vit dans une frustration terrible. Et ça a duré 8 mois. Et après 8 mois, comme la formule était, il a plu au président fondateur. J'étais dans la ville ici en train de me promener et j'ai entendu le soir que, par ordonnance numéro 1, j'étais le directeur général de l'OPEC, de l'OPEX à l'époque.
Ça vous a surpris?
Oui et non, mais enfin, nous rentrions déjà dans Tata Moko, Mama Moko, donc vous avez trouvé du travail. De toute façon, on ne demandait même pas votre avis. Et ça a été comme ça jusqu'à la fin de la Deuxième République. On vous rentrait, on vous sortait, et puisque vous cherchez des anecdotes, un jour j'ai été révoqué entre 2 avions. J'étais ministre des Finances, je suis à Paris pour négocier le club de Paris, et de là je devais aller en Allemagne, à Francfort exactement, pour aller initier ce qu'on appelait le plan Mobutu. Au départ, en partant des États-Unis, ça s'appelait le plan Marshall. Et arrivé là-bas, bon, pour des raisons politiques, on a dit que je devais dire que c'était le plan Mobutu. Bon. Mais entre le moment où j'étais paré et j'arrive à Transport, à ce moment-là, il y a eu déjà un remaniement. Et quand j'arrive, je trouve des hommes d'affaires qui m'attendaient et les journalistes m'ont regardé de travers et dit, mais cet homme-là. Et puis, je vois un de mes conseillers qui vient me dire, oh, monsieur le ministre, il y a un problème. C'est quel problème là? Je dis, mais non, vous n'êtes plus ministre. Ah bon, et qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai trouvé une parade. J'ai dit, voilà, vous aurez appris que dans mon pays, il y a eu un changement de gouvernement. Mais pour l'instant, voilà, je suis là pour assumer les affaires courantes.
Et donc le changement s'est fait pendant que vous étiez dans l'avion?
Pendant que j'étais dans l'avion. Mais je peux vous raconter.
Et vous ne saviez pas qu'il y avait un remaniement qui se préparait?
Non.
Mais je ne suis pas au courant.
Non.
Il y a toujours des rumeurs, monsieur Kakwama.
Mais vous savez, les rumeurs ont un gros avantage. Lorsqu'on est concerné, on ne croit pas aux rumeurs. On ne croit pas que vous allez partir. Et ensuite, lorsqu'on vous envoie en mission pour aller discuter avec le club de Paris, vous ne pensez pas qu'on va vous virer comme ça. Mais je vais vous raconter mieux. Et c'est ce qui a fait que je suis devenu politicien. Parce que jusqu'en 88, je me suis considéré personnellement plus comme technocrate que comme politicien. Cela fait que beaucoup de gens ne le savent pas. Je n'ai jamais été député pendant la Deuxième République. Je n'ai jamais été membre du comité central pendant la Deuxième République. Je n'ai jamais été membre du bureau politique. Jamais.
C'est moi qui pensais que vous étiez dans le comité central.
Malheureusement, c'est ce que les gens croient. Les seules fonctions que j'ai eues, qui étaient liées à la politique, si je puis dire, c'est que j'étais par 2 fois. D'abord, comme directeur général de la SONAS, j'ai été, on appelait ça un président sectionnaire. Et une fois là, et une fois là, j'ai terminé. Mais je n'ai jamais, jamais personnellement pris une option politique. Je me considérais toujours plus comme un technicien, comme un technocrate pour autre chose.
Même lorsque vous avez occupé des fonctions ministérielles, vous vous considériez toujours comme un technicien?
Absolument, absolument. Je suis sûr que ceux qui m'ont vu évoluer pendant ce temps. Et j'en connais, que j'ai eu comme supérieur, comme responsable. Pour certains de mes amis, j'étais un mal nécessaire. J'étais quelqu'un très difficile à gérer parce que j'avais des idées personnelles et qui n'allaient pas toujours dans le sens du courant de ce qui se faisait. Et je vous dis comment est-ce que j'avais décidé que plus jamais je ne serai quelqu'un qui dépendra pour sa survie, à la fois politique ou professionnelle, de la volonté de quelqu'un d'autre. Et je vous raconte ça parce que ça m'a vraiment marqué. J'étais président de la GKM et je me trouve en vacances, donc parti d'ici en vacances, avec femme et enfant. Les enfants étaient en Europe, je vais laver leur rejoindre ma femme pour être en vacances. Je suis en vacances à Ibiza. Vers 20h, je suis dans un restaurant avec des amis et on vient signaler, mais j'étais comme il y a un téléphone. Je faisais le téléphone. Vous savez ce que j'apprenais?
Non.
J'apprenais que j'étais révoqué. Alors après, quand vous quittez un coup de fil téléphone comme ça, vous revenez à la table, il faut faire bonne mine, il faut manger et essayer de garder un semblant de sérénité. Ce n'est pas évident. Et depuis ce jour-là, et ça s'est passé le 16 juillet 88, j'ai dit, plus jamais personne ne m'aimera. Pardonnant ce numéro est tel.
Vous avez eu quand même beaucoup de coups, M. Kiakov.
Et cela fait que, lorsque j'ai décidé de faire la politique, j'ai dit je ne serai pas politique si je ne suis pas élu par le suffrage universel. Cela fait que je suis sans doute parmi les rares dirigeants de ce pays. D'abord, je n'ai pas fait la conférence souveraine. Je n'ai pas été à Sun City. Je n'ai pas été 1 plus 4 ni la transition. Donc, c'est pour vous dire que j'étais en dehors de tout ce que je n'ai pas fait la guerre non plus, puisque nous sommes à des témoignages. Je me souviens le 30 juillet, n'est-ce pas, 98, je me trouve à Bruxelles en exil.
Mais pourquoi vous êtes allé en exil? Puisque vous n'étiez pas membre du comité central ni du bureau politique, mais pourquoi vous êtes allé en exil?
Voilà une bonne question. Je suis allé en exil simplement parce que, vous savez, à un certain moment, quand vous avez occupé certaines fonctions, vous devez devenir emblématique. Et effectivement, j'avais quitté les fonctions que j'avais pour la dernière fois pendant la Deuxième République. J'étais en 96. J'étais ministre des Finances. Alors, j'ai quitté le 25 décembre. Eh bien, j'étais ici, je ne me posais pas la question. Je n'avais pas envie de partir à l'extérieur, mais je vais le décider presque en une ou demi journée. C'est des amis blancs qui m'ont invité le 11 mai 97. Lorsque je vais déjeuner chez eux, ils me posent la question de savoir, mais qu'est-ce que vous faites ici encore? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas aux affaires. Ceux qui viendront, qui vont renverser sans doute le bouton, ils vont aller aux affaires, je ne demande rien, je n'ai pas de problème. On m'a signalé que ce qui était prévisible, parce que les notes en sous-main se promenaient déjà que tel et tel et tel auraient été identifiés comme des gens qu'on devait éliminer. On doit même dessiner même les pelotons d'exécution. Et alors, jusqu'alors, je n'y croyais pas, mais on me disait, écoutez, vous êtes peut-être en danger, vous serez mieux de partir. Et alors, ils m'ont dit, écoutez, c'est votre pays. Si ça se passe bien, vous partez pour un mois, une semaine, deux semaines, vous reviendrez. Si ça se passe mal, vous êtes au moins à l'abri. Ça a duré 5 ans. J'étais en train de vous dire que je n'ai pas fait la guerre, qu'on appelait pompeusement la guerre de libération. On est venu me solliciter. C'était le 30 juillet 98 à Bruxelles. Je reçois M. Bouguera, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, que je voyais pour la première fois. Il venait me proposer de créer ce qui est devenu après la RCD. Parce que ils étaient en rupture de banc ici, ils sont partis d'ici, et vous savez très bien que le 2 août 98 commençait la guerre. Donc ils sont venus me demander pour que nous puissions créer la RCD. Ils ont refusé parce que ce n'est ni dans ma culture, ni dans ma façon de concevoir le pouvoir, de le prendre par les armes. Donc, voilà l'homme dont on parle. Et beaucoup j'entends, beaucoup de gens, vous avez été UDI, je n'ai jamais été UDI.
Union des démocrates indépendants avec M. Alexis Thambo Mamba et Léon Kengo Andondo.
Jamais. À l'UDI, j'avais des amis. Mais je considérais que j'avais choisi librement d'être membre du parti démocrate social chrétien de Papa Iléo. C'est là où j'ai pris ma carte. Je ne suis pas un homme d'appareil. Je suis un homme qui a des convictions. Je suis démocrate chrétien depuis ce temps-là. Je suis demeuré démocrate chrétien.
Alors aujourd'hui, vous êtes député national, président d'un parti politique CDC. Pendant la crise à l'Assemblée nationale, vous vous êtes présenté comme candidat à la présidence. Vous faites partie de l'opposition. L'opposition est allée en ordre dispersé. Est-ce que vous pensiez que vous pouvez être élu par les députés pour diriger l'Assemblée nationale?
Alors, il y a deux choses. Je crois qu'il ne faut rien mélanger. Je n'étais pas candidat parce que je devais nécessairement gagner. J'étais candidat parce que je voulais que les idées qui étaient les miennes soient connues par l'opinion nationale et soient connues par mes pairs au Parlement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je considérais que nous représentions comme démocrates chrétiens une tranche de la pensée politique de ce pays et qu'elle devait s'exprimer. Lorsqu'on dit que l'opposition est partie avant dispersée, c'est faux. D'abord, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs candidats qu'on est dispersé. Il faut aussi qu'on se libère un peu de cette vision globale des Congolais. L'on est ensemble quand on fait n'importe quoi, on se rassemble, on dit on est ensemble. On est ensemble par rapport à des objectifs clairs. On est ensemble par rapport aux convictions, par rapport aux valeurs qu'on défend. On n'est pas ensemble parce que tel me plaît ou ne me plaît pas. Donc, je n'imagine pas derrière les individus, derrière les personnalités. J'adhère à des idées, à des valeurs. Donc, je considérais que les valeurs que nous défendons, les valeurs chrétiennes, les valeurs de justice, de paix, de responsabilité, de liberté, de partage, de solidarité, ces valeurs-là avaient besoin d'avoir quelqu'un qui les exprime. Voilà pourquoi j'étais candidat. Et pas parce que je considérais que je vais nécessairement gagner.
Et vous pensez qu'un autre candidat de l'opposition ne pouvait pas exprimer ces valeurs-là? Dans l'opposition, vous ne partagez pas toutes les mêmes valeurs, si je comprends bien?
Mais on n'a jamais dit que dans l'opposition, nous partageons les mêmes valeurs. Sinon, nous serions... On poursuit le même objectif.
Mais vous ne partagez pas les mêmes valeurs.
Pas nécessairement. Non, nous ne partageons pas les mêmes convictions. La manière de vivre la liberté, de défendre la dignité de la personne humaine, de prendre position sur tel ou tel objet n'est pas nécessairement la même dans l'ensemble de l'opposition. Il y en a qui sont dans l'opposition parce que simplement ils n'ont pas été élus.
Et vous êtes dans l'opposition?
Moi, je suis dans l'opposition pour une raison bien simple. Je considère que la manière dont le gouvernement a été fait, la manière dont les institutions ont été mises en place ne répondait pas à un objectif précis. Il n'y avait pas de programme. Je suis prêt à travailler avec n'importe qui, mais pas adhérer pour répéter. Le président fondateur a dit, l'autorité morale a dit, ça, je suis sevré de ça.
Et donc, vous n'étiez pas très surpris de votre chef, hein?
Pas du tout. D'autant plus, je suis d'autant plus à l'aise que j'ai un groupe de 28 députés, j'ai eu 15 voix. Pour vous dire que les autres se sont dispersés dans les alentours pour des raisons que vous pouvez deviner.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Le Grand Témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Gilbert Kiakwama Kiakizuki, plusieurs fois ministre, actuellement député national CDC et président du groupe parlementaire des démocrates chrétiens. On va parler d'actualité, M. Gilbert Kiakwama. Commençons par la CENI. Où en sommes-nous avec la composition du bureau de la CENI? L'opposition a déposé déjà sa liste?
Je crois que l'opposition a au moins, non pas seulement déposé sa liste, mais annoncé à la nation les noms de ceux qui ont été retenus. D'après ma connaissance, en ce qui concerne mon groupe chrétien-démocrate, nous avons proposé comme membre de la CENI Mme Carole Kabanga-Koy. Et je sais que mes amis du MLC, ils ont proposé le sénateur Ndjoli. Et que mon ami
de l'Oder,
ils ont proposé le député national Ndaye. C'est tout ce que je sais.
Donc, du côté d'opposition,
nous avons fait notre part du contrat et nous attendons patiemment, gentiment, que la majorité nous dise qui ils ont retenu.
Vous attendez patiemment, gentiment, nous tirons en longueur la mise en place de la CENI. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur le processus électoral?
On ne tire rien en longueur. Je crois que avant...
On devait déjà avoir le bureau de la CENI.
Madame, vous savez que avant la rentrée parlementaire, les gens se sont moqués de l'opposition. Ils nous ont dit qu'ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Mon groupe a désigné depuis le 28. Donc aujourd'hui, c'est dans la majorité qui ne remplit pas sa part du contrat. Si nous sommes en retard, c'est la majorité présidentielle qui n'a pas encore désigné les quatre qui doivent désigner. C'est ça la réalité. Donc, c'est en retard, on doit établir les responsabilités. Ça, c'est un. En ce qui nous concerne, ce qui concerne notre groupe, parce que j'entends beaucoup de choses, nous n'avons pas fait du sentiment. J'ai demandé à mes amis parlementaires de mon groupe un système bien simple. Nous avons voulu un système, une procédure qui soit d'abord transparente, qui soit ensuite inclusif, qui soit en plus contradictoire et enfin démocratique. Nous avons reçu exactement 14 candidatures. Sur ces 14 candidatures, 8 désignées par l'opposition à l'intérieur du Parlement et 6 désignées par l'extra-parlementaire. C'est la seule candidature que nous avons reçue. J'ai fait créer une commission ad hoc pour faire un premier tri. Ensuite, nous avons réuni notre groupe, on a examiné, on a approuvé notre PV. Et ensuite, nous avons invité les candidats, les 3 candidats que nous avons sélectionnés, nous les avons invités à une audition. Et Madame Carole Kabang-Koy est sortie la première. Et nous avons dit, en attendant ces arbitrages liés à l'origine régionale, nous avons retenu 2 autres candidats comme suppléants, mais déjà fixés. Donc, voilà la position de la CD. Elle est claire, elle est nette, elle ne pose aucun problème.
Alors, dans la loi sur la CENI, parmi les critères, on parle de l'indépendance des personnes qui devront faire partie du bureau même de la CENI. Vous pensez qu'en choisissant Mme Carole, elle sera indépendante? Est-ce qu'elle ne va pas se dire qu'elle vous doit quelque chose parce que c'est vous qui l'avez présenté au bureau de la CENI?
Madame, on doit toujours quelque chose à quelqu'un. L'indépendance n'est pas liée au fait qu'on doit quelque chose, non. Vous êtes indépendante. Vos parents, vous leur devez tout. Ce n'est pas pour ça que vous faites la volonté de vos parents. Vous pouvez vous motiver tout seul. Alors, comme on dit, dépendance, indépendance, je n'y crois pas un mot. On désigne quelqu'un parce que je ne fais pas d'illusion. Je suis pas né de la dernière pluie.
Voilà, merci monsieur Kiakoma. Parlons du budget, du projet de budget 2011, un budget qui s'élève à 7 milliards de dollars, le plus important depuis 1947 selon le Premier ministre. Comment vous jugez ce budget, ce projet de budget?
Madame, monsieur, ce projet de budget, j'ai mon problème. Le problème de ce pays, souvent, c'est qu'on est toujours les meilleurs. Ça me rappelle la Deuxième République. Il y a eu un objectif 80. Et alors, je me souviens, le régime disait à l'époque, au mieux, nous serons les premiers. Si on n'est pas les premiers, on sera le deuxième. Aujourd'hui, c'est la même chose. On n'a jamais fait ceci, on n'a jamais fait ceci. Nous sommes les premiers. Et quand on fait les classements, nous sommes 179e sur 180 dans le monde. Nous sommes les derniers en tout, mais nous sommes les premiers dans les performances. Moi, mon sentiment sur ce budget, c'est comme ce que je pensais pour les autres budgets. Celui de 2007 n'a pas été appliqué, celui de 2008 n'a pas été exécuté, celui de 2009 non seulement qu'il n'a pas été exécuté, mais j'ai quitté personnellement, parce que ma conscience me le reprochait, la commission économico-financière pour ne pas être complice une fois de plus. J'exigeais, en accord avec tous mes collègues, nous avions décidé en 2009 qu'on n'examinerait pas le budget 2010 si on ne voit pas le rapport de l'Assemblée nationale. Sur l'exécution du budget, on en a rien fait. Dès le lendemain matin, j'ai déposé ma démission pour dire que je ne serai plus complice. On a été complice, on a été lâche pendant la Deuxième République. Je refuse de refaire la même chose.
Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de différence entre ce budget et les précédents? C'est pareil, la population ne va pas se retrouver. Il n'y aura pas de changement sur le plan social.
Si je vais être gentil, pour utiliser un mot qui ne dira peut-être pas grand-chose à beaucoup de gens, c'est un budget virtuel. Ce sont des chiffres qui ne signifient absolument rien. Notre peuple est capable d'entendre la vérité. Je préfère qu'on nous dise qu'on a un budget de 3 millions, que ces 3 millions, on peut les réunir et les débloquer réellement, plutôt que nous dire qu'on a un budget de 7 milliards, et les 7 milliards ne viendront pas.
Vous êtes pessimiste, monsieur.
Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je suis financier. Je suis économiste, j'ai une expérience, on ne me raconte plus des histoires. Comme j'ai souvent coutume de dire au Parlement, ça va se savoir.
Alors, on va s'associer un mot sur le rapport mapping des Nations Unies sur les graves violations de droits de l'homme commises en RDC entre 1993 et 2003. Comment vous avez accueilli ces rapports, M. Kiakoma?
D'abord, je dois dire que j'ai été très très heureux de savoir que ce rapport existe. Enfin, tout le peuple congolais a vu, voir, nous avons vu à la télévision, dans les médias, on a entendu, on a eu des témoins qui ont pu rendre témoignage de ce massacre pendant des années. Eh bien, enfin une fois, la communauté internationale a le courage de reconnaître qu'il y a eu massacre, qu'il y a eu des tueries systématiques. Et vous savez ce qui m'amuse, c'est ce qu'on est en train d'argoter sur le mot génocide. On a peur de qui? On a peur de quoi? Qui seul peut faire le génocide, pourquoi ce serait la propriété de quelqu'un? Peut le dire pour les uns, pas pour les autres. Pourquoi? C'est les faits qu'on doit juger. Donc je dis, c'est un bon rapport, et je soutiens ce rapport, et je considère qu'on doit aller jusqu'au bout, et qu'on doit punir tous ceux qui ont participé à cela, quelle que soit leur fonction d'hier ou d'aujourd'hui. En clair, il faut que dans ce pays, il y ait une cour pénale uniquement pour le Congo, comme on en a fait pour le Rwanda.
Monsieur Kiakoma, nous sommes à la fin de notre entretien. Une toute petite dernière question. Avant de clore cette émission, quelles sont vos ambitions pour 2011?
J'ai les ambitions de tout Congolais dans ce pays qui peut prétendre à tout. Mon parti, nous l'avons créé pour être candidat à toutes les fonctions que la République rend disponibles. Donc, personnellement, je n'ai pas encore dit à quel niveau je veux postuler, mais mon parti est candidat à tous les niveaux, y compris à la présidence.
Et vous allez vous décider quand?
Le moment venu. Aujourd'hui, nous ne connaissons même pas dans quelles conditions cela va se faire. Et quand vous entendez, on ne sait pas dans quelle sauce on va nous cuire, puisqu'on va changer le mode d'élection, on va changer des articles de la Constitution, en attendant que tout cela ne se mette en place et la loi électorale, il est urgent de ne rien faire.
Monsieur Kiakoma, je vous remercie.
Je vous remercie, ma chère, et chaque fois que vous aurez besoin de moi, je suis à votre disposition. Merci encore de m'avoir donné cette opportunité de me présenter à la nation congolaise et à ceux qui s'intéressent à notre peuple. Merci.
Merci, grand témoin. C'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous Gilbert Kiakoma, Kiakizuki, toujours Premier ministre, actuellement député national CDC et président du groupe parlementaire des démocrates chrétiens. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioopati.net. Kelly Nkoute vous a présenté cette émission. Sylvain Matoun était à la technique. Passez un agréable week-end en compagnie des programmes de Radio Okapi. Thank you.